Tristan Hertig.
L'armée israélienne a mené hier des dizaines de frappes aériennes au Liban, tuant 16 personnes dans le sud du pays, dont un maire, près d'un mois après le début d'une guerre ouverte contre le Hezbollah libanais. Les raids ont provoqué d'importantes destructions. Alors que l'armée israélienne mène depuis le 30 septembre une offensive terrestre dans le sud du Liban, la force de paix de l'ONU, la FINUL, a affirmé quant à elle qu'un char israélien avait tiré sur l'une de ses tours de guet, parlant de tir direct et visiblement délibéré. L'ancien haut responsable mexicain de la lutte anti-drogue et ex-ministre Genaro García Luna a été condamné hier à New York à plus de 38 ans de prison pour trafic de stupéfiants et corruption. C'est ce qu'a annoncé la justice fédérale américaine. Genaro García Luna, qui avait été jugé coupable en février 2023 et attendait depuis sa peine, a été condamné à 460 mois de prison et 2 millions de dollars d'amende pour avoir prêté main forte une décennie durant au redoutable cartel mexicain de Sinaloa. La justice brésilienne réclame l'extradition de ressortissants ayant fui en Argentine pour échapper à des poursuites liées à l'assaut mené le 8 janvier 2023 par des partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro contre les sièges des institutions à Brasilia, la capitale. La demande, faite en date de mardi, a été faite par Alexandre de Moraes, juge de la Cour suprême, en charge de l'enquête sur les événements du 8 janvier. Selon les médias brésiliens, elle vise à l'extradition de 63 personnes. La Corée du Nord a confirmé hier avoir dynamité la veille des routes et des voies ferrées menant vers la Corée du Sud. Des routes qui étaient autrefois utilisées pour les échanges transfrontaliers. C'est ce qu'a rapporté l'agence officielle KCNA. Ces voies de communication ont été complètement bloquées au moyen d'explosifs, a écrit KCNA, confirmant des informations diffusées la veille par l'armée sud-coréenne. L'actuel vice-directeur du secrétariat d'État aux migrations, Vincenzo Macioli, dirigera la migration dès le 1er janvier. Il a été nommé hier par le Conseil fédéral et succédera à Christine Schraner-Burgener. À 54 ans, Vincenzo Macioli s'est imposé face à une quarantaine de candidats, dont 10 femmes. « Je suis sûr qu'il est la bonne personne pour ce poste », a annoncé le conseiller fédéral en charge de justice et police, Beat Jans, devant les médias. Et la météo, aujourd'hui un temps généralement assez ensoleillé et sec, même si quelques passages nuageux parfois importants sont attendus dans l'ouest du pays, notamment le long du Jura et sur les régions de plaine avoisinantes, des nuages qui pourraient s'accompagner de brèves précipitations. Le mercure en plaine de 14 degrés à 18 au plus haut. Demain, un ciel changeant qui alternera entre précipitations et éclaircies, notamment en Valais. Une limite plus neige qui s'abaissera de 2800 à 2600 mètres. Les températures sur le plateau de 12 au minimum à 17 au plus haut. Enfin, samedi, une lente amélioration probable avec le passage à un temps sec et en partie ensoleillé à partir de l'ouest. Il fera au maximum 16 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
This is the largest group
kick drum, please.
Of people ever assembled in one place.
La première vous propose de vivre ou revivre un concert exceptionnel, enregistré lors de festivals en Suisse ou en Europe, avec les commentaires de ses meilleurs spécialistes. La première live, c'est une heure de musique live, tous les vendredis dès 20h sur La Première.
Vos nuits en compagnie de La Première.
Drôle d'époque. Émilie Gasque, Pascaline Sordet.
C'est
Salut tout le monde, salut Sacha Unger en régie que je n'avais pas vu depuis mes années couleur 3. Un plaisir de vous retrouver derrière les manettes. Et salut ma très chère Pascaline.
Nous on s'est vu la semaine passée.
Oui, mais c'est toujours un grand bonheur. C'est mercredi. Le mercredi, notre drôle d'époque s'interroge sur nos vies affectives. Alors on se questionne ensemble pendant une heure et demie sur nos différents liens à l'enfance, à la jeunesse, aux adultes, aux aînés, aux couples, à la parentalité, à l'amour, à la sexualité, à notre vie sensible dans toutes ses formes relationnelles. Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous pencher sur le berceau d'enfants jumeaux. En 50 ans, les naissances gemmelaires, elles ont augmenté de 40%. Alors c'est dû notamment aux grossesses qui se déroulent plus tardivement et aussi au parcours médicalement assisté. La relation gemmelaire, elle suscite toujours une certaine fascination parce qu'elle apparaîtrait comme l'anti-solitude rêvée par chacun de nous, la complète autre moitié. Cela offrirait une relation très particulière, conférerait aux jumeaux une force, une aide à la sociabilité, apporterait protection, repère. Et ce double complice, parfois harmonieux, parfois en rivalité, est-ce que c'est vraiment propre aux jumeaux? Une étude de jumeaux monozygotes du Minnesota qui ont été séparés, ces enfants à la naissance, démontre la part importante de l'environnement par rapport à l'hérédité. On ne naîtrait donc pas jumeaux, on le deviendrait sous le regard de l'autre? C'est une vraie question. Et lorsque la mort survient, comment faire face à la gemmélité perdue? De tous ces sujets, nous allons en parler jusqu'à 16h30 avec toutes ces questions grâce à Mireille Durig-Jacquet qui est kinésiologue et autrice de deux ouvrages aux éditions Slatkin. Bonjour Mireille Durig-Jacquet.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Mais merci d'être venue, vous arrivez d'où comme ça?
Je viens de Nyon.
C'était bien, le voyage s'est bien passé.
Le voyage s'est bien passé.
Les routes sont dégagées en cette période de vacances.
En train.
En train,
c'est
bravo
confortable.
À vous. Félicitations. Nous venons de le dire, je viens de le souligner, vous êtes kinésiologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez rapidement ce qu'est la kinésiologie? Est-ce que cette pratique peut apporter comme compréhension, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel? En quoi cette méthode peut-elle solutionner nos problématiques?
Alors la kinésiologie, d'abord le mot veut dire science du mouvement, donc c'est une approche qui va nous permettre de nous remettre au mouvement, que ce soit au niveau structurel, émotionnel, relationnel. La kinésiologie existe depuis des années 1940.
Mais elle a vraiment... fait 20 ans que vous faites cela.
Ça fait 20 ans que je pratique la kinésiologie. J'y suis arrivée parce que j'étais enseignante au tout début de ma carrière professionnelle. J'enseignais à des adolescents l'anglais et la musique et j'ai rapidement senti que j'avais une autre voie à prendre.
Mais parce qu'il y a quelque chose qui coinçait, vous avez senti que des blocages étaient présents chez les enfants ou...
Je sentais ça et je me sentais appelée à faire d'autres choses et le cadre de l'école m'enfermait un peu et donc j'avais envie, d'être libre, de transmettre, de créer un peu ma vie professionnelle. Et donc, il y a une partie de la kinésiologie qui s'appelle le Brain Gym, qui travaille beaucoup sur les difficultés scolaires. Et donc, c'est comme ça que j'ai plongé dans la kinésiologie, au début sans savoir que j'allais en faire mon métier. Et je me suis formée à la kinésiologie et c'est un vrai régal. Et j'ai toujours eu à cœur de transmettre. Alors, qu'est-ce qu'elle va pouvoir s'adresser aux enfants, aux petits-enfants, déjà aux bébés au travers de la maman? Aux enfants en âge de scolarité. Moi, je travaille beaucoup avec des enfants en âge de scolarité puisque c'est un peu mon domaine de prédilection. Aux adultes, et on peut travailler sur des symptômes physiques, émotionnels, plein de...
Mais alors, qu'est-ce que c'est? À quel moment je me dis, tiens, je vais aller voir un kinésiologue? Si j'ai mal au ventre, je vais voir mon généraliste. Si j'ai une infection de la peau, je vais voir mon dermatologue. À quel moment je vais chez le kinésiologue?
Exactement. On va aller chez le médecin généraliste ou chez le dermato, mais on peut aussi aller quelque part chez le kinésiologue pour aller comprendre le sens de ce symptôme. Par exemple, un eczéma, il y a une histoire là derrière. Un mal de ventre chez un enfant qui part le matin à l'école, il y a une histoire émotionnelle. Et le kinésiologue, il va permettre de faire ça. Parce qu'on va utiliser un test neuromusculaire, c'est-à-dire qu'on va s'adresser au cerveau de la personne qui vient en consultation, que ce soit enfant ou adulte, et les neurones vont interpréter cette information, soit en termes de stress ou pas de stress. Donc le test qu'on fait, qu'on dit neuromusculaire, est un indicateur de stress et la réaction de notre bras, on va prendre un muscle du bras parce que c'est plus confortable, va nous donner des informations. Il y a du stress. Et à partir de là, on va pouvoir re-questionner le corps, on devrait dire plutôt le système corps-cerveau. On va re-questionner ce système corps-cerveau parce que là, ce système corps-cerveau a la réponse de comment on va débloquer ça. Et on peut aller débloquer dans la vie biographique, en vie intra-utérine, à la naissance, chez les ancêtres, il y a toute une palette. Et c'est le corps de la personne qui vient en consultation qui va nous donner l'information. L'intérêt de la kinésiologie, c'est que Ça s'adresse vraiment, on va aller toucher cette mémoire cellulaire et elle va s'adresser à l'inconscient. Si vous imaginez l'iceberg, c'est la partie émergente, c'est les 10%, c'est notre conscience, c'est les choses qu'on comprend, qu'on peut aller travailler chez un psy, on va dire. Et les 90% de glace, c'est l'inconscient. Et en kinésio, on va aller travailler sous l'iceberg, dans l'iceberg, dans les parties cachées que le système veut bien dévoiler, au rythme où il veut bien dévoiler ça.
Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de trop illustrer pour montrer à quel point le corps peut exprimer dans son fonctionnement des souffrances, des angoisses et autres stress. Mais quel est le lien entre problème scolaire et kinésiologie? Puisque vous avez dit que c'était l'accompagnement scolaire au départ qui vous a amené...
Oui, les enfants, par nature, ils sont avec une intelligence créative, alors que l'école, elle va rapidement leur demander d'utiliser leur intelligence logique. Quand on peut s'adapter, il n'y a aucun souci. Mais quand on n'arrive pas à s'adapter, il y aura des difficultés, après des difficultés émotionnelles où l'enfant va se sentir nul, alors qu'il n'est pas vrai, il n'est pas nul du tout, simplement.
Des blocages, donc. On va bien sentir des sciences du mouvement.
Ça va créer des blocages, effectivement. Et dans le Brain Gym, on a toute une série d'exercices qui peuvent faire travailler les deux hémisphères cérébraux ou alors travailler sur la gestion émotionnelle ou travailler sur la posture parce que le corps va enregistrer nos stress. Nous, on sait bien, les trapèzes, comment on est tendu, le bas du dos. Voilà, il va travailler sur ces trois dimensions.
Comment est-ce que la kinésiologie est perçue aujourd'hui dans le monde médical et scientifique?
Ouais. Alors, au niveau scientifique... Je crois qu'on n'est pas, il faut pas chercher à vouloir prouver quelque chose en kinésiologie. On est dans de l'expérience. Moi, je ne peux parler de ce que je parle de mes livres, que ce soit le premier livre, Génial, j'y arrive enfin, ou le deuxième, Des étoiles vers la Terre, ou encore dans les derniers que je viens de publier. On est dans le domaine de l'expérience. Et moi, je ne peux parler de ce que j'ai vu au cabinet au travers des milliers de séances que j'ai vues et des résultats que j'ai eus. Je vais pas prétendre qu'il y a une réalité scientifique là derrière.
Mais vous avez suffisamment vu.
J'ai suffisamment vu.
Éprouvé et ressenti.
Voilà. Et ça me suffit amplement. Qu'on me dise que le Brain Gym, il n'y a rien de scientifique. Je me dis, bon, oui, oui, et alors? Ça fonctionne. Donc, ça me suffit si ça fonctionne.
Est-ce que vous l'avez vous-même utilisé pour répondre à vos propres besoins, la kinésiologie?
Ah oui, bien sûr. Et j'ai découvert la kinésiologie. Et je me suis mise à vraiment faire du Brain Gym quand mes enfants, mes jumeaux avaient 7 ans, ma fille avait 3-4 ans comme ça. Mais c'était vraiment l'âge de scolarité de mes enfants. Et un de mes garçons était justement dans une difficulté, un surstress émotionnel, on va dire, une hypersensibilité émotionnelle qui faisait que l'apprentissage prenait vite des proportions démesurées. Et donc j'ai beaucoup fait de Brain Gym avec lui et beaucoup de kinésio. Puis en formation, on travaille sur soi, je l'ai expérimenté, je fais aussi voir des collègues, bien sûr.
Et donc pour votre petit garçon, ça a été la solution? Ça a marché?
Ben oui, ça a été en tout cas un bon accompagnement. Ça a été, je prétends pas que ce soit un miracle, mais c'est un bon accompagnement. Et comme mon fils est un enfant kinesthésique, quoi, il est adulte maintenant, mais ça reste un kinesthésique, c'est-à-dire que c'est un kinesthésique, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger pour apprendre, qui a besoin de passer par le corps, qui a besoin de toucher.
Ça parle à beaucoup de parents, c'est
voilà.
Une démonstration.
Et,
là.
Et vraiment, le Brain Gym et la kinésiologie, ça permet ça. Ça permet, alors qu'à l'école, on va leur dire « arrête de bouger », moi je vais leur dire « mais bouge intelligemment et bouge en sachant de la manière dont tu vas bouger, le cerveau va réagir, va agir de la bonne manière et tu auras accès à ton potentiel ».
Et ça, au sein de l'école, du coup, c'est quelque chose qui est compris, accepté, parce que dire à l'enfant « bouge » et puis l'école lui dit « bouge pas », c'est aussi une source de stress. Hein.
Bonne question, très bonne question. Quand j'ai commencé la kinésio il y a 20 ans et que j'étais encore enseignante, j'ai demandé à mon directeur d'avoir un projet pédagogique qu'il a accepté et je l'en remercie. Et pendant une douzaine d'années, j'ai eu un projet pédagogique pour introduire le Brain Gym et les difficultés, enfin, et comment la kinésiologie et des outils simples, hein, d'enracinement, d'ancrage, de posture, de respiration pouvaient améliorer le quotidien des enfants. Et puis, il y a une douzaine d'années, le département a décidé que non, c'était plus possible de mettre ça dans les écoles. Alors, il y a toujours des enseignantes qui sont favorables à ça. C'est juste l'idée de... moi, je transmets des outils aux enfants et je dis, voilà, tu pratiques ça à la maison de cette manière-là. Et à l'école, il faut que tu l'adaptes de cette manière-là. De toute façon, les enfants, ils sont souvent en retrait. Ils disent, mais je veux pas montrer aux copains. Je dis, mais tu sais, il y en a beaucoup, peut-être, qui connaissent ça. Et voilà, c'est juste, il faut adapter les outils. Mais oui, savoir que... déjà, on vient à intra-utérine. Enfin, si l'enfant bouge, c'est bon signe. Donc, c'est malsain et incohérent de dire arrête de bouger, l'enfant va se figer et il n'y a plus rien qui se passe entre le rachis et le cerveau. Donc, ça bloque toutes les informations. Donc, bouger...
intelligemment, vous avez dit.
Intelligemment, tout doucement, comme un petit bercement, ça suffit. Et puis après, pratiquer à la maison.
Mais ça, c'est un excellent conseil. Mais bouge tout doucement.
Bouge. C'est-à-dire, oui, moi qui ai des ados, vous imaginez bien en classe, quand ils bougent avec leur chaise dans tous les sens, ça nous met le tournis. Non, c'est pas ça. Mais c'est bouger et comprendre pourquoi, en bougeant d'une certaine manière, qu'est-ce que ça fait et comment ça peut améliorer les choses.
Oui, j'ai une amie qui m'explique qu'elle est là pour travailler. Elle a besoin d'avoir un élastique sous la table attaché à son pied. Nous sommes là avec vous, Mireille Duric-Jacquet. Nous allons parler de la gémellité aussi, puisque vos deux derniers livres sont consacrés à la gémellité. Il est là, lui aussi, Louis Chédid, qui nous propose une si tendre chanson pour nous réconforter.
Où que tu sois, où que tu ailles, si t'as le cœur qui sort des rails, douleur capitale ou vénielle, quand les nuages s'amoncellent, même si je peux pas t'empêcher d'être triste, je plongerai dans les abysses qu'avant trier, j'irai au fond d'heureux péchés. Je suis là, ici où tout là-bas, je suis là, jamais bien loin. J'avais bien
Elle est très douce à entendre, hein, cette petite phrase. Je suis là. Je suis là et nous sommes là à 15h20 sur la première à l'écoute de Drôles d'époque avec Mireille Duric-Jacquier qui est kinésiologue. Et nous sommes là aussi dans cette drôle d'époque, ce qui m'amène à vous poser cette question. Mireille Duric-Jacquier, comment allez-vous ?
Mais je vais bien, je suis portée par des tas de projets, je suis portée par la vie. Je suis grand-mère depuis pas très longtemps, donc je trouve que la vie est fabuleuse.
Comment c'est d'être grand-mère ?
Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux de retrouver ce monde de l'enfance, de la toute petite enfance, de l'émerveillement. Ma petite fille, elle a 8 mois, et j'ai la chance de la garder une journée, alors c'est juste merveilleux.
En plus, ils ont de la chance, vos enfants, de vous avoir comme nounou.
Oui. Plaisir partagé, en tout cas.
Est-ce que l'émerveillement est d'autant plus grand qu'on avance en âge sur ces tout petits doigts et tout petits phénomènes ?
Oui, certainement, pour la plupart des gens, le fait de devenir grand-parent, ça nous met dans une autre posture. Mais moi, j'ai toujours été fascinée par les tout petits. Vraiment, c'est quelque chose qui m'émeut profondément. Vous entendez dans ma voix, c'est au-delà de moi.
Ouais. Avec vos propres enfants, vous avez aimé cette période des tout petits, des nourrissons ?
Oui, j'ai beaucoup aimé cette période. Alors, je vais dire que c'est là que la vie m'a été vraiment... initiatique pour moi, parce que à la naissance de mes jumeaux, j'avais une très belle grossesse et à 5 semaines, on a découvert chez un de mes garçons une pathologie cardiaque. Opéré de toute urgence, deuxième enfant sauvé en Suisse. Et c'est son frère jumeau qui a respiré. Alors, dans l'irrationnel, c'est son frère jumeau qu'on entend respirer à la maison, alors qu'on est nous à Nyon et lui et Gilles au CHUV. Et donc, 3 mois sans anticipation, voilà, comment la vie un peu, j'ai basculé dans l'expérience de la maternité, secouée, mais ouvert le cœur, hein, parce que vraiment, ça a été pour moi une initiation, une épreuve initiatique. Et quelque part, maintenant que mon fils va bien, et c'est d'ailleurs lui qui a cette petite fille, maintenant que mon fils va bien, je dis merci à la vie. Je remercie la vie. Et oui, et pour ma fille aussi, parce qu'après avoir une grossesse GMLR et quand même se partager toujours, et surtout quand on se partage entre l'hôpital, la maison et tout ça, c'était quand même un peu rock'n'roll, on va dire. Avoir une grossesse unique, comme dernier cadeau de la vie, c'était, et avoir garçon et fille, je peux pas rêver mieux. Et j'ai vraiment adoré, tant qu'ils sont... J'adore mes enfants, quel que soit l'âge, mais cet émerveillement jusqu'à ce qu'ils entrent à l'école et que la société, quelque part, les oblige un petit peu à se formater, à rentrer dans le moule. Voilà, c'est la toute petite enfance, c'est magique pour moi.
Nous allons retourner un peu plus loin justement que la petite enfance pour aller voir ce qui se joue in utero. Je vous propose un extrait du podcast de Zoé Varier sur la transmission de pensée entre bébé et mère.
Marie-Claire Busnel a toujours prêté attention à la parole des femmes enceintes. Elle m'a raconté qu'elle avait passé 10 ans de sa vie à conseiller aux femmes de parler à leur fœtus. Jusqu'au jour où une femme lui a répondu qu'elle n'avait pas besoin de parler à son bébé pour qu'il se comprenne. Cette réponse a été une révélation pour Marie-Claire Busnel. Cette femme avait raison. À ce moment-là, Marie-Claire Busnel a amorcé un virage dans sa pensée. Elle a suivi son intuition et elle a décidé de travailler sur la communication silencieuse entre le fœtus et sa mère. Est-ce que les femmes enceintes communiquent autrement que par la voix avec leur enfant ? La chercheuse a mis en place une expérience avec 140 femmes enceintes pour étudier leur mode de communication avec leur bébé. Communication à voix haute et communication silencieuse.
Donc j'ai demandé aux mères qui en avaient envie et qui n'étaient pas contre, est-ce que vous pourriez lui parler par voix intérieure, c'est-à-dire silencieusement ? Vous adressez à votre bébé, mais vous n'émettez aucun son.
C'est ça, une communication.
Patiemment. Même nombre, pratiquement un tout petit peu plus de réactions pour la voix silencieuse que pour la voix parlée.
Alors attendez, ce que vous êtes en train de dire, Marie-Claire Busnel, c'est que quand la mère s'adresse à son bébé qui est dans son ventre, au fœtus, sans dire un mot, en pensant à lui...
En s'adressant à lui, mais silencieusement, dans sa tête.
Le bébé réagit, le fœtus humain réagit.
Ouais.
Comme si elle lui parlait à voix haute.
Oui. Il y a le même nombre de réactions, un tout petit peu plus,
Vous l'avez mesuré encore avec le rythme cardiaque du fœtus, de la même façon?
Exactement de la même façon.
Mais là, on vous a regardé, j'imagine, encore plus bizarrement. Oh, parce que,
encore pire.
Parce que jusqu'à présent, vous aviez travaillé scientifiquement, vous aviez fait des expériences où on mesurait, où les choses étaient quantifiables d'une certaine manière. Et là, vous parliez d'une communication invisible.
Oui, mais qui, pour moi, était tout aussi scientifique, puisque c'était dans la même lancée d'expérimental où je demandais aux mères de lire, de parler à leur fœtus de choses inintéressantes, matérielles, de parler au fœtus émotionnellement, et puis de penser, de parler au fœtus silencieusement. Donc c'était tout aussi expérimental.
Mais quelle conclusion vous en avez tirée de cette communication silencieuse, invisible? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a là?
Vous allez m'obliger à me suicider.
Pourquoi?
En disant, ben, je pense que c'est de la transmission de pensée.
Et pourquoi je vous oblige à vous suicider?
Ben, parce que ça ne se fait pas pour une scientifique de parler de transmission de pensée.
Mais c'est pourtant ce que vous avez toujours pensé.
Ben oui, c'est ce que j'ai toujours pensé. C'est ce que j'ai toujours écrit, c'est ce que j'ai toujours publié. Mais ça ne fait pas sérieux.
Et voilà, un extrait de ce podcast In Utero de Zoé Varier. Et cette conclusion de Marie-France Busnel qui... Voilà, qui comme vous, en fait, Mireille Duric-Jacquet, dit ben, « moi j'ai l'expérience, alors ce n'est pas scientifique, mais mon expérience, tout ce que je vois en cabinet me fait croire que, et entendre que, et ressentir que ». Quelle est votre réaction à l'écoute de ce témoignage?
Alors, je partage totalement son point de vue. J'ai juste envie de dire que c'est peut-être une pensée, c'est pas... La pensée, elle vient pas de la tête. J'ai envie de dire que la maman, elle va communiquer. C'est de cœur à cœur que ça se passe. C'est un autre langage, un langage silencieux de cœur à cœur. Et c'est comme si vraiment, il y a une vibration qui se met en route et l'enfant, il peut comprendre ça. C'est de la même manière quand on explique à un petit enfant, un tout petit bébé, des tas de choses. On se dit, mais rationnellement, il peut pas comprendre les mots. Il comprend l'intonation, il comprend la vibration. Et c'est amplement suffisant pour un enfant.
L'intention.
C'est l'intention, mais c'est l'intonation, c'est le rythme, c'est la chaleur qu'on va mettre dans les mots. Alors qu'ils soient verbalisés, extériorisés ou qu'ils soient intériorisés et qui remplit cet espace intérieur, pour moi c'est tout à fait la même chose et ça m'étonne pas du tout que oui, le fœtus il va comprendre sa maman
et même l'entendre.
S'il
ne parle pas. Selon vous, notre conception, comment est-ce qu'on a été créé et notre naissance impacterait tout ce que l'on fait, comportement et notamment notre relation au travail scolaire. Comment ça?
Ça a été le sujet de mon deuxième livre. Un auteur, Jean-Philippe Brébion, raconte que c'est important d'aller voir ce qui se passe les 9 mois avant la conception, le temps de conception, les 9 mois de gestation et la naissance et les 9 mois après. Et tout ça, ça va quelque part construire ou formater l'individu. Par exemple, si on a été conçu alors que c'était une conception non désirée, si on a une naissance par césarienne, ça va pas faire les mêmes relations, les mêmes histoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours déprogrammer, libérer s'il y a du stress par rapport même à une conception non désirée ou une naissance par césarienne. Et oui, le travail de naissance et le travail scolaire sont en lien parce que les heures où la maman est sur le point d'accoucher, c'est quand elle a perdu les os, quand il y a cette dilatation, quand l'enfant descend dans le canal pour vraiment sortir et venir au monde, c'est quand même la chose la plus difficile qu'on fait tous. Ça, c'est tout un travail, et pour l'enfant, et pour la maman. Et ça va se répéter souvent dans le travail scolaire. Alors là, comment je l'ai découvert, c'est que lors de l'anamnèse que je fais avec les patients qui viennent, au travers de la maman, je demande à la maman comment s'est passée la grossesse, la naissance et tout ça. Et j'entendais des fois les mêmes phrases. La maman dit, mais mon enfant, il met une éternité à démarrer ses devoirs, etc., etc., par exemple. Et puis, je disais, mais comment ça s'est passé, la naissance? Elle dit, ah, mais j'ai dilaté pendant... Je ne dilatais pas pendant 20 heures. Et c'était la résonance. Et donc, en travaillant, en libérant ce travail initiatique de la naissance, on va pouvoir libérer un potentiel pour le travail scolaire.
Qu'on appelle d'ailleurs le travail.
Le travail, c'est le
travail. Partie de la naissance.
Oui, c'est le travail. Exact. C'est le travail.
Ça m'interpelle parce que ma dernière fille est née les pieds en premier et très vite. Et du coup, je me demande ce que ça pourrait vouloir dire.
Sauteuse à la perche, je pense.
je cherche une logique.
Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu angoissant ou culpabilisant pour les mères ou pour les futures mères devant la responsabilité du coup que ça leur met sur les épaules? Parce que vous dites, on peut réparer une naissance par césarienne. Bon, on choisit pas de mettre au monde un enfant par césarienne, non. Peut être nécessaire. Il y a déjà beaucoup de culpabilité qui pèse sur les mères. Comment vous arrangez de cette
réalité? Et qui dit, est-ce que c'est la décision d'une maman, l'accouchement, est-ce que c'est finalement la maman qui entraîne la naissance, ou est-ce que c'est l'enfant qui va naître comme lui le décide?
Je pense qu'il peut avoir, les deux. Il peut avoir les deux. Des fois, c'est sûr que si c'est la maman qui décide, j'aimerais une césarienne parce que ce sera plus confortable pour moi. Ok. Des fois, les femmes veulent une césarienne parce que dans leur transgénérationnel, il y a eu des femmes qui sont mortes en couche. Elles le savent peut-être pas, mais il y a cette conscience qu'on peut mourir en couche, donc en ayant une césarienne
qui existait, voilà.
Mm-hmm. Maintenant, je pense qu'il faut, ça sert à rien de culpabiliser. La culpabilité, elle ajoute quelque chose en plus. Et au contraire, on a tout fait de notre mieux. Après, par exemple, pour ma fille, elle est née finalement par césarienne, alors que mes jumeaux sont nés par voie basse. Alors, j'en ai pris un petit peu, une petite claque pour mon égo, je dois l'avouer. Hein, parce que
mais vous voyez, rien que cela. Voilà. Comme il y a une idée quand même d'accomplissement et de réussite.
Voilà, c'est comme et pourtant, elle avait un cordon autour du cou. Au bout d'un moment, ça passait pas. Au bout d'un moment, on rigole pas. On veut la vie. On veut la vie avant tout. C'est sûr que j'ai dû aller le travailler, personnellement.
Mais comme un échec.
Oui, mais c'était mon égo, quelque part. C'était mon égo.
Mais est-ce que c'était pas la société, plus que votre égo? C'est-à-dire, si on vous avait pas dit que c'était mieux, et que vous aviez pas une idée de réussite, d'accomplissement autour de l'accouchement par voie basse, peut-être que vous l'auriez vécu autrement.
Mais les femmes sont faites pour faire naître leur enfant par voie basse de tout temps. Beaucoup de femmes ont fait naître leur enfant par le siège, de plein de façons.
Mais César est né par césarienne. Ça remonte quand même à longtemps.
Ça remonte à longtemps, effectivement.
Je ne tiens pas à vous contredire à tout prix. Oui. C'est pas l'objet, mais il y a d'autres actes médicaux pour lesquels on ne ressent pas de culpabilité. Mmh. On ne ressent pas de culpabilité à se faire enlever l'appendicite parce que c'est nécessaire.
Les femmes et les mères, je vois aussi quand elles sont dans un projet de grossesse, est-ce que ça marche pas? Les femmes, elles ont tendance à prendre la responsabilité sur leurs épaules quand elles sont dans un projet, alors que l'homme, il est un peu concerné, mais un peu plus distant avec ça. Donc ça fait partie de la nature féminine
ou de la société,
les femmes, de la société qui nous a.
Y compris le sexe des enfants, alors que ce n'est pas leur fait biologiquement, c'est aussi elles qui le portent.
Exactement.
Tout. Elles prennent tout sur elles. Chaque semaine, nous demandons à nos invités, à Mireille Durig-Jacquet, de nous faire parvenir une photo d'eux enfants. Et la vôtre, qu'on peut donc aller voir sur notre page RTS, nous montre une petite fille toute petite, en robe à froufrou, sandales, nœuds blancs dans les cheveux. Elle est tenue par la main par un homme et elle se hisse presque sur la pointe des pieds tant sa main est levée haut par ce monsieur. On la sent devoir marcher vite avec ses petites jambes. Je pense qu'il y a comme une déambulation, il y a un spectacle. Comment s'est passée votre enfance, vous qui avez été entourée de sœurs?
Oui, entourée de sœurs. Oui, cette image, oui, c'était effectivement lors d'un cortège. J'étais tenue par la main par je ne sais plus qui, mais mon enfance, elle s'est passée normalement bien. J'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance. J'ai une sœur aînée, j'ai une sœur après de 4 ans plus jeune, et puis j'ai encore une dernière sœur qui vient 13 ans après moi.
Les 4 filles de docteur marchent pas. De tous les âges.
Exact.
Tous les tempéraments.
Et un peu la particularité, oui, d'être au milieu d'autres filles et de pas avoir de masculin, ben ça change les choses. Mais je ne connais pas ce que c'est que d'avoir un frère, même si j'aurais certainement aimé avoir un frère à un moment ou à un autre. Et notre particularité familiale, c'est qu'on a grandi entre deux villages. Donc quelque part, il y a certainement eu une forme d'isolement, un peu en retrait un peu du village à droite et du village à gauche.
Vous n'étiez dans aucune équipe?
Non, on n'était dans aucune équipe, voilà, mais pas malheureuse pour autant, hein, voilà.
Que faisaient vos parents?
Ils avaient un domaine viticole.
Ah, vous avez grandi à la vigne.
J'ai grandi à la vigne, oui, les pieds dans la vigne.
Et vous y travaillez? Enfin,
je faisais les vendanges, ça oui, facilement. J'ai appris à effeuiller la vigne, je ne saurais plus, mais non, principalement c'était les vendanges, qui était un véritable temps de réjouissance pour tout le monde et pour nous aussi, même quand on est enfant ou adolescent ou jeune adulte.
L'adolescence, elle était bien?
L'adolescence?
Oui.
La mienne, pas particulièrement, parce que j'étais quelqu'un de très timide, très effacé, très réservé. Mais j'étais pas malheureuse parce que scolairement, ça se passait. Donc voilà, ça se passait. Mais voilà. C'est vrai que l'adolescence, c'est quand même un temps de passage. C'est pas forcément le plus...
Vous étiez contente d'en sortir?
Je pense que plus j'avance en âge, plus je suis contente d'avoir la maturité et la richesse de ce que la vie m'a apporté. Je pense que c'est plus facile pour moi d'avoir 60 ans, d'en avoir eu 40, 50, 60, que d'en avoir eu 15.
Ou 16.
Ou 16.
Et d'écouter Billy Joel, parce que c'est le titre que vous aimiez. Vous étiez une grande romantique qui rêvait.
Beaucoup.
Honnêteté est un mot tellement rare. Tout le monde est si faux. Honnêteté n'est presque jamais prononcée, mais c'est ce que j'attends principalement de toi. Nous sommes en 1978 et voici Billy Joel, Honesty.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Yeah.
Et c'est très drôle, à l'instant, sur ce titre de Billy Joel de 1978, de voir les écarts générationnels. Moi, j'ai encore dansé un slow sur Honesty. Et pas vous, Pascaline Sardet.
Non, pas moi. Moi, j'ai dansé sur Titanic.
Voilà, chacune.
J'ai embrassé un garçon pour la première fois de ma vie sur Titanic.
Et Mireille Durick-Jacquet avait 15 ans quand sortait ce titre de Billy Joel. Je vous imagine avec vos grandes sœurs, vos petites sœurs, enfin votre grande sœur et vos petites sœurs. Comment c'était cette bande de filles à la maison quand même? Vous jouiez ensemble, vous parliez ensemble, vous battiez, vous...
Alors quand j'avais 15 ans, ma petite sœur avait 2 ans, donc elle était vraiment un peu à part quand même. Hein.
Mais collée à vous, vous aimiez la pouponner?
Très honnêtement, je lui ai avoué l'autre jour que je ne me souviens pas du tout comment j'étais. Comment j'étais avec elle, si je me réjouissais de cette naissance. Il faut se remettre aussi dans le contexte. Notre maman avait 35 ans quand elle a accouché de notre dernière sœur. Et à l'époque, c'était pas du tout courant. Donc, c'était presque...
C'est fou. Ça paraissait tard, 35 ans.
Oui, c'était ouais. Presque...
Qu'aujourd'hui, c'est presque précoce.
Presque pas bienvenu, quelque part. Et je me souviens qu'on avait été un peu réservé à l'annoncer à nos copines.
Ah, ça gênait.
Oui, ça gênait. C'était... Voilà.
Embarrassant.
Embarrassant. Alors, avec ma sœur aînée, oui, on est très proches. On a 13 mois d'écart, donc voilà. Et elle joue très bien son rôle de grande sœur, protectrice. Et comme, oui, comme ça. Et ma sœur, qui vient 4 ans après moi, elle était beaucoup avec notre papa. Donc voilà, oui, mais on était quand même ensemble. Non, je crois pas qu'on se chamaillait. Je crois pas.
Eh ben, elle avait de la chance, votre maman, si vous ne vous chamailliez pas.
Je ne sais pas si on avait de l'espace pour se chamailler. Je veux dire, c'est une éducation
ça.
Un peu...
C'était très organisée.
Ça devait filer droit. Et ça filait droit. Mais voilà, il y avait de la structure.
Il y avait de la structure.
Mais c'est bien aussi, de la structure.
Chaque semaine, nous avons une petite pépite de lecture que nous conseille Pascaline Sardet. Et celle du jour, Mireille Durick-Jacquet, justement, parle de sœurs.
Mais bon, mais c'est un bon bouquin. Je veux dire, c'est sérieux. C'est un classique.
Butiné. Bouquiner.
Il manque un mot. Mais quel scandale! Dans ce français qui se prétend si riche, quand on est né dans une lignée de filles comme vous, et que donc on n'a que des sœurs, eh ben on fait partie d'une fratrie. Voilà, c'est la constatation frustrante de Blanche Le Ridon qui elle-même a des sœurs et qui s'est attelée du coup à défaut d'un mot à construire un château de papier à ses sœurs et à toutes les sœurs de l'histoire et de l'histoire littéraire. Ce point linguistique, il n'est pas anodin, l'autrice le note, avec la montée en puissance des mouvements féministes, le mot sororité est entré dans le vocabulaire. Et avec lui, l'idée que les femmes peuvent et veulent et savent se serrer les coudes et faire groupe. Et du coup, elles peuvent faire nous en faisant en quelque sorte mentir dans le temps Simone de Beauvoir que Blanche Le Ridon cite. Les prolétaires disent nous, les noirs aussi. Se posant comme sujet, ils changent en autres les bourgeois, les blancs. Les femmes ne disent pas nous, elles vivent dispersées parmi les hommes. Eh ben plus du tout avec la sororité. Mais si elles ont réussi ça, à dire nous, ces femmes, qu'est-ce qui empêche les sœurs de faire sororie et non fratrie? Alors dans cet essai que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle « Le château de mes sœurs », l'autrice s'attache à décortiquer les racines profondes de cet effacement du concept même de sœur, vraiment. Et la première raison, elle est très ancienne, elle est évidemment liée aux règles d'héritage et au genre, mais pas que au genre, comme on pourrait le penser. Je la cite, « Ce n'est pas le féminin en tant que tel qui dérange, le fameux choix du roi lui offre une bonne place, c'est son empire et sa multiplication. » Autrement dit, avoir une fille, c'est bien, mais en avoir trois, c'est déjà un peu une malédiction. Et alors, pire, n'avoir que des filles, ça c'est en fait une condamnation de la lignée. Le deuxième point, il concerne le comportement des sœurs. On avance un peu dans le temps. Bon, quitte à avoir des filles, maintenons-les dans le cadre idéal et parfaitement codifié d'une féminité douce et docile. Écrit Blanche Le Ridon. Il faut donc qu'elles soient des petites filles modèles, qui est aussi le titre d'un fameux roman pour enfants de la comtesse de Ségur, qui est paru en 1858 et qui est la suite des Malheurs de Sophie, donc les petites filles modèles. Et là, c'est vraiment l'assignation à la docilité. Une réalité qui a l'air comme ça un peu quand on le dit d'un autre temps, mais que la sociologie alors nous renvoie en pleine figure, puisque les études montrent que les petites filles sont, avant même leur naissance, façonnées par des attentes genrées de douceur, de soins, d'empathie. Et il y a un paradoxe là-dedans, c'est que ces petites filles modèles, à l'adolescence, elles vont en fait devenir des puissants objets de désir. Elles vont être érotisées, hypersexualisées. Il y a vraiment quelque chose autour des sœurs, leur réclusion, la chambre des filles, la gémellité, encore plus, qui est un vrai objet de fantasme. Et là, Blanche Leridon va prendre un autre exemple, en l'occurrence dans le cinéma contemporain, avec le phénomène culturel qui a été Virgin Suicide de Sofia Coppola. Et là, on y rencontre les sœurs Lisbonne, qui sont un peu dans leur blouse blanche évanescente.
Bouleversant, ce film.
Bouleversant, mais si on le regarde avec cet œil-là, elles sont là, blondes, enfermées, vraiment à mourir littéralement dans le carcan familial, sous les yeux amoureux et désirants des garçons du quartier. Et vraiment, cet appel à la culture populaire, je trouve que c'est un des points forts du livre qui fait qu'il est aussi super agréable à lire. Par exemple, sur la rivalité entre les sœurs, il va convoquer la naissance médiatique de Pippa Middleton le jour du mariage de sa sœur avec le prince William, où vraiment tout ce qui compte, c'est la robe de Pippa Middleton. Est-ce que Kate est jalouse de Pippa Middleton? Voilà, cet univers de la rivalité qui va être convoqué. Et puis, on va croiser aussi dans ce livre les sœurs Ashley et Mary-Kate Olsen pour la télévision américaine, et puis évidemment, toujours dans ce même registre, les incontournables sœurs Kardashian, dont la dynastie médiatico-financière repose littéralement sur le fait d'être une sororie. Et puis il y a un vrai plaisir à découvrir et à redécouvrir ces sorories de fiction. Alors, toutes les ados qui ont regardé la trilogie du samedi sur M6 se souviennent des sœurs Halliwell de Charmed, qu'on appelait d'ailleurs Charmed. Les trentenaires ont dévoré Fleabag, constatant que la plus importante des relations de Fleabag dans cette série, c'est celle qui la lie à sa sœur Claire. Et puis, quelle petite fille ne connaît pas Elsa, la Reine des Neiges, sauvée par sa sœur Anna? Voilà, on voit ces sorories, elles remontent. On en a même déjà évoqué une. Les quatre filles du Docteur March, c'est la petite maison de la prairie, c'est les trois sœurs de Tchekhov. Voilà, il y en a partout. Puis voilà, maintenant, depuis plusieurs minutes, j'utilise ce mot de sororie, un peu pour voir l'effet que ça fait, comme ça. Parce que Blanche Leridon ne l'utilise pas. En fait, elle n'a pas pour prétention d'imposer le mot ou de le mettre dans le vocabulaire absolument, mais elle veut vraiment plonger dans l'univers qu'il devrait désigner. C'est les mots qu'elle utilise dans l'introduction, et c'est déjà pas mal, et c'est très réussi. Mais si on croit, comme moi, au pouvoir de la langue de changer notre vision du monde, alors pourquoi pas tenter de rendre leur place dans le dictionnaire à toutes nos sœurs.
Allez, venez mes sœurs, et allez donc voir ce château de mes sœurs, et le lire, c'est aux éditions Les Pérégrines.
C'est ça, je connaissais pas du tout, mais c'est super, c'est très joli, c'est rose fluo, c'est très chouette.
Et moi, en tant que mère d'une sororie, justement, je suis très interpellée par votre propre maternité, également Mireille Guéric-Jacquier. Donc, vous avez eu des jumeaux. Et vous dites que ça a été vraiment l'événement initiatique dans votre vie pour changer de vie, pour vous changer vous-même, vous transformer. Donc, est-ce que c'est par la naissance de ces deux êtres? Est-ce que c'est par cet épisode de grande angoisse? Qu'en a-t-il été?
Je pense qu'il y a les deux facteurs. Déjà, je ne m'attendais pas à avoir des jumeaux. Ça a été vraiment une surprise, une agréable surprise. Peut-être pendant une ou deux heures, mon Dieu, comment je vais faire? Voilà, il y a plein de choses matérielles qui se bousculent dans la tête. Mais après, j'ai eu beaucoup de chance puisque la grossesse s'est bien passée.
Est-ce que vous connaissiez déjà les jumeaux? Est-ce qu'il y avait eu déjà des naissances à double dans votre famille ou proche de vous?
Alors, pour ma sœur aînée, c'était une grossesse gémellaire non aboutie, mais j'avais ça au fond de ma tête. Donc, je me suis jamais dite, voilà, il y a une première grossesse gémellaire, même si elle est non aboutie. Donc, il y a des chances que j'ai une grossesse gémellaire.
Donc, votre maman avait perdu un enfant au cours de sa grossesse?
C'est-à-dire que au moment de la naissance de ma sœur, ils ont analysé le placenta, ils ont vu qu'il y avait un deuxième fœtus. Voilà, ça peut se voir. Hein. Ça veut dire que c'était une grossesse quand même assez avancée. Donc je savais ça, mais je m'étais pas du tout posé de questions. Et c'est seulement quand mes garçons ont eu 7-8 ans que je me suis mise à questionner le transgénérationnel. Et là, j'ai découvert, on m'a confirmé que mon arrière-grand-mère avait eu des jumeaux et qu'ils sont décédés l'un après l'autre. Et donc je pense que c'est ça qui a fait tout comme s'il y avait un tracé qui venait jusqu'à moi et je devais, leur redonner une place. J'appelle ça dans mon livre la désignée volontaire pour faire un peu pour regarder ce qui s'est passé dans ce transgénérationnel et redonner une place à chacun, voilà. Donc oui, cette maternité, si mes deux enfants avaient été en bonne santé, De toute façon, la maternité est transformatrice. La grossesse gemellaire, c'est à double. Mais je pense que ça me correspondait assez bien parce que je suis quelqu'un d'assez, assez vive. Donc, je me suis pas sentie débordée.
Mais vous vous disiez timide et réservée aussi.
Oui, mais vraiment, alors, la maternité m'a permis de sortir de cette réserve. Vraiment.
En vous donnant quoi? Un statut? Une responsabilité?
J'ai dû faire face vraiment avec l'hospitalisation de notre fils. J'ai dû faire face à un monde que je connaissais pas et de me positionner, de prendre confiance. Voilà, j'étais sortie définitivement. Et quand même, j'avais enseigné déjà presque une dizaine d'années à des adolescents. Alors, il n'y a pas mieux pour sortir de sa réserve. Ça, si vous voulez aller...
Pour prendre sa place.
Pour aller dans la cage au lion, vous allez enseigner à des adolescents. Ça, c'était parfait. Donc, j'avais fait un petit peu mes...
Vous aviez fait vos armes.
J'avais fait mes armes.
Vous aviez montré que vous étiez capable d'autorité, de fermeté, de sérieux.
Exactement. Et de rire aussi, de bien rire
super.
Aussi.
Super. Oui. La gemellité, elle est au centre de ces deux livres que vous publiez et qui viennent de sortir. Donc, Gemellité perdue et Gemellité symbolique. Et puis le second qui est, je sais pas, donc, s'ils ont un ordre, mais ils sont sortis en même temps. Mais l'autre, au cœur de la gemellité incarnée. C'était important d'écrire spécifiquement sur la gemellité. Qu'est-ce que ça a de différent? Parce que là, on a parlé de la maternité, mais plus spécifiquement, le fait qu'il y ait des jumeaux.
Ben, moi, ça vient vraiment réparer mon histoire transgénérationnelle. J'étais arrivée à un moment où je devais vraiment clarifier ce qui s'était passé. Et je pense que je ne parle que de mes expériences. Donc, en tant que mère de jumeaux, en tant que sœur d'une sœur aînée qui a eu une jumelle perdue, en tant que arrière-petite-fille d'une arrière-grand-mère qui a perdu ses jumeaux. Voilà, c'était tout d'un coup... Voilà, c'est un bon sujet. C'est vrai que ça a été une évidence pour moi de faire paraître les deux livres en même temps. Je les ai écrits l'un avec l'autre.
Des livres jumeaux.
Exactement. Et le premier, celui que j'appelle le premier au cœur de la gemellité incarnée raconte vraiment les histoires de vrais, de faux jumeaux, les bons, les moins beaux côtés. Vraiment aller au-delà du fantasme qu'on a de la gemellité où on pense que c'est toujours tout génial, mais c'est pour les jumeaux, c'est pas toujours tout aussi génial que ça. Et le deuxième prend en compte cette gemellité perdue dont on parle de plus en plus parce que maintenant on arrive à mettre du sens sur certaines manifestations physiques, manifestations psycho-émotionnelles où il semble qu'il nous manque quelqu'un. Donc ça c'est ça la gemellité.
Mais ça, ce n'est pas le propre de tout individu.
Oui.
De se sentir un manque à l'existence et de devoir chercher sa complétude dans la relation à l'autre.
Oui, ça aussi, tout à fait. Bien sûr.
Quels ont été les signes qui vous ont, vous, mis sur cette piste de devoir questionner votre famille?
Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça s'est construit au fil du temps. Au fil du temps avec, voilà, mes garçons jumeaux ont 30 ans. Je pense que ça a toujours été là, cette thématique.
Mais est-ce que vous avez vu chez votre sœur aînée, puisque vous avez grandi avec elle si proche, vous aviez 13 mois d'écart, vous étiez presque des jumelles. On a même dit que vous associez en jumelles petites, parce qu'on fait souvent ça quand les enfants sont rapprochés, à les élever ensemble, tellement ensemble. Est-ce que vous avez perçu chez votre sœur ce manque? Elle qui n'avait pas eu cette jumelle.
Non, parce que je pense qu'on peut le percevoir à partir du moment où on sait que ça existe, qu'il y a une réalité, même si c'est de l'ordre de l'invisible. Hein, quelquefois, des mères sentent, ou même des enfants sentent qu'ils ont eu un jumeau, ou que la mère elle a peur des jumeaux, mais il n'y en a qu'un qui est venu à la vie. Même si c'est de l'ordre de l'invisible, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Alors non, moi, je ne le voyais pas. Mais petit à petit, en regardant aussi toutes les traces que cette histoire de gemellité depuis mon arrière-grand-mère, parce que je crois que ça part de là, cette arrière-grand-mère qui en 1905 accouche de jumeaux, donc déjà il faut se mettre dans le contexte. Une femme en 1905 quand elle accouche à la maison, c'est pas gagné d'avance. Généralement elles savent pas qu'elles en ont deux à faire naître. Donc elle réussit cette prouesse de faire naître ses jumeaux et 3 mois après ils décèdent l'un après l'autre. Alors quand il n'y a pas pire pour une mère et pour un père aussi, hein, pas pire pour des parents que de perdre un enfant, d'en perdre deux, il n'y en a même pas un qui reste pour laisser une trace. Donc je pense que c'est ce drame-là qui a fait que il y a des traces qui sont venues jusqu'à moi et j'étais appelée à faire la lumière là-dessus.
Et vous avez travaillé en psychogénéalogie aussi, hein, pour justement renforcer toutes ces explications et vous amener à avoir une conscience éclairée, je dirais, parce que c'est d'ailleurs ce que vous utilisez, vous parlez de lumière. Je vous propose d'écouter un témoignage de Jade, parce que depuis le début, en introduction, je disais, est-ce que finalement on est jumeaux ou est-ce qu'on devient jumeaux parce qu'on nous regarde comme tel? Est-ce qu'on nous fabrique jumeaux? Jade nous a laissé un petit message vocal pour apporter son point de vue à elle.
Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que la représentation de la gémellité, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, les gens nous perçoivent comme des sœurs jumelles. Mais nous, à l'intérieur de notre relation, de notre duo, ben, pas du tout, quoi. C'est pas quelque chose qu'on conscientise quotidiennement. Par contre, ce qui est assez exceptionnel, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on peut tout partager. Moi, je sens que je peux vraiment la solliciter et qu'il y aura, enfin, voilà, quelque chose de l'ordre d'être 100% naturel avec quelqu'un. Et ça, je pense que c'est un grand privilège.
Ah oui, être 100% soi-même avec l'autre, qui en plus nous ressemble, ça doit être étonnant. Quel est votre point de vue à vous sur votre expérience? Est-ce qu'on fabrique les jumeaux ou est-ce que, à l'évidence, ils le sont?
J'ai envie de dire que les jumeaux, faut surtout faire attention à les, ça c'est mon point de vue, hein, juste mon point de vue, de les dégémelliser, c'est-à-dire de leur donner un espace à chacun. Alors oui, c'est mignon, les habiller, la même chose quand ils sont petits, mais il y a un moment, il faut vraiment leur donner leur espace, donc que il y a ce lien qui est au-delà de ce que nous, les non-jumeaux, peuvent comprendre. Et c'est,
que ça vous l'avez observé.
Ça leur appartient, ça leur appartient. Et ce témoignage voilà, le restitue bien. C'est quelque chose d'hors norme, mais c'est important de dégémelliser. Et même, je voyais encore il y a quelques jours en consultation, quand il y a des enfants qui sont nés assez proches, et des fois même dans des répétitions de dates, à un ou deux jours près. Il y a un enfant qui naît, je ne sais pas, au mois de mai, le 15 mai, le frère ou la sœur naît le 17 mai, deux ans après. Des fois, il y a des parents qui vont les rassembler, comme les éduquer comme des jumeaux. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Je pense qu'il faut vraiment... Il y a une histoire un petit peu peut-être d'ego aussi dans les parents, pour les parents là.
Ou de simplification, parce que c'est aussi plus rassurant.
Peut-être, du pragmatisme, mais c'est important que chacun ait son espace. Et vous savez, les vrais jumeaux, ils ont une apparence physique identique, mais ils sont complémentaires vraiment. Il y en a un qui est plutôt logique, l'autre plutôt créatif, l'un plutôt introverti, l'autre plutôt extraverti.
Aussi, de façon aussi schématique que cela?
Oui. Dans les vrais jumeaux.
D'accord, je propose qu'on garde cela comme point de départ, qui est aussi le titre de Fanny de Poule, pour revenir sur la question de la gémellité. Parlez aussi de cette gémellité symbolique et aussi de celle qui est incarnée. Vous allez nous faire le point, j'allais encore dire de départ, mais non, sur toutes ces questions. Chanson.
On ira juste là où le soleil prend feu, où les étoiles s'allument, où le ciel se teint de bleu, où le gravier devient dune, où les orages boivent l'eau, où la flaque devient lagune, là où la goutte devient ruisseau. On ira juste là, là où les fleurs prennent racine, où l'oiseau apprend le vol, où la pente devient colline, là où la roche devient pétrole, où les ombres se dessinent, là où les rêves se bricolent, où la rose taille son épine. On ira jusque là. On ira juste là. Là, pour comprendre sans se parler, les mots ne servent à rien parfois. Les yeux sont mieux pour discuter. Regarde toutes ces choses qui sont nées avant qu'on parvienne à les voir. Pour passer une ligne d'arrivée, il faut bien un point de départ. On n'aura juste pas le temps de s'arrêter en chemin pour admirer le paysage de l'aube qui se pointe au matin. On aura du pain sur la planche et des montagnes à gravir. On tient le couteau par le manche, mais encore faut-il s'en servir. On sera juste toi et moi dans ce navire qui va nulle part. Et quand je compterai jusqu'à trois, on traversera le brouillard. Faudra s'accrocher au destin, celui qui décide du voyage. Et si t'as pas le pied marin, je tiendrai ta main dans les virages. Pour aller juste là où les forêts sont boutures, où les tempêtes sont soupirs, où les falaises sont fissures, là où la lumière est lueur, où la bombe à chair pétard, là où le noir est une couleur, là où l'humain est un pétard. On ira tout là-bas, se confiner vers vers l'infini pour voir ce monde qu'on pensait plat et cette lune qui nous sourit. On sera juste toi et moi, assis au milieu du passé.
Les émissions de la journée, en nouvelle diffusion pour accompagner vos nuits. La première, il est 2 heures.